Paysans autrement, l'agriculture d'aujourd'hui et de demain sur Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paysans autrement. Au menu aujourd'hui, un plat au nom toujours un peu indigeste, il faut l'avouer. En tout cas pour les non-initiés, la PAC, la politique agricole commune, et même, on peut le dire, la nouvelle PAC. La PAC, l'un des ciments de la construction européenne, créée en 1962. La PAC représente en 2021 33,1% du budget de l'Union à 27. Pour la France, un peu plus de 9 milliards d'euros. La part des dépenses agricoles dans le budget de l'Union européenne, qui décroît d'ailleurs continuellement depuis plusieurs années maintenant. Et le 31 mai dernier, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a présenté le plan national stratégique issu de la politique agricole commune. À Bruxelles, les États membres ne sont pas encore d'accord sur l'ensemble des points, notamment sur le verdissement de l'agriculture et la transition vers ce verdissement. Sur le terrain, bataille rangée, on peut le dire, entre la FNSEA, la Confédération paysanne, les agriculteurs bio, les associations environnementales. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Et nous, les consommateurs, dans tout ça? Voilà la question. Paysans autrement, c'est parti.
Paysans, nous sommes fiers d'être paysans. Nous sommes libres d'être paysans. Nous sommes dignes et debout. Les paysans, les paysans.
Paysans, les paysans debout, et oui, pour comprendre, nos invités sont là. Henri Brichard, qui est en charge du dossier PAC à la FNSEA. Bonjour Henri Brichard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bon, j'ai envie de vous dire, en charge du dossier PAC à la FNSEA, la présidente Christiane Lambert vous a pas fait un cadeau, là. C'est un gros dossier, quand même. Pour comprendre tout, c'est pas toujours facile. Vous y arrivez, vous ?
D'essayer de comprendre, oui, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau européen et niveau français. Après, ouais. Effectivement, la FNSEA représente l'ensemble des agriculteurs sur tous les territoires, sur toutes les productions. Donc, effectivement, il faut qu'on soit en capacité. En tout cas, qui représente des sensibilités très différentes entre les productions et entre les territoires. Donc, pour avoir une position FNSEA, il faut effectivement trouver un équilibre.
Bon, ben on va parler de tout ça, bien évidemment. Merci d'être avec nous, en tout cas. Nicolas Giraud est également la porte-parole de la Confédération paysanne. Bonjour, Nicolas Giraud.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. 42 ans, éleveur dans le Jura, en GAEC, c'est ça, en GAEC. Vous élevez des vaches laitières en production Comté et Morbier. Donc, si jamais c'est vous ça. Avez un peu de Comté, n'hésitez pas, vous pouvez nous en envoyer, on adore ça. Donc, ça tombe à pic. Et puis, en studio avec nous, Aurélie Catalo, coordinatrice de la plateforme pour une autre PAC. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en studio ici sur Radio Territoria. Évidemment, on va donc essayer de brancher le décodeur pour comprendre ce qui se passe avec cette nouvelle PAC qui est en cours de discussion. Et l'accouchement, évidemment, est difficile. Tiens, je commence avec vous d'ailleurs, Aurélie Catalo, pour une autre PAC. Le ministre évoque un maître mot. Oui, c'est comme ça qu'il s'exprime. C'est un maître mot, la consolidation de la PAC. Il s'agit d'une PAC consolidée qui maintient les grands équilibres économiques en place. La France conserve son budget global. 43,7 milliards d'euros sur la période 2023-2027 pour un total européen de 269,5 milliards d'euros. C'est pas rien. En quoi cette situation de consolidation financière pour les agriculteurs français vous convient ou pas ?
Sur la question du budget, nous étions tout à fait en soutien de l'action entreprise par le gouvernement français de tenter de sauver le budget de la politique agricole commune qui, à l'origine, était pressenti plutôt en baisse et qui, finalement, a été maintenu. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont tellement dépendants de ces subventions de la PAC et tellement dans la capacité de vivre uniquement des prix de vente, malheureusement, qu'il serait suicidaire que de baisser le budget de la PAC et de leur allouer moins de subventions. Mmh. Là où on va avoir, nous, après, des différences permanence avec le ministre de l'Agriculture notamment, c'est sur la manière dont on répartit ces subventions et sur les objectifs qu'on met derrière ces subventions. En revanche, sur le budget, on est d'accord, il faut une PAC forte, ce qui passe par un budget fort.
Alors, pour rentrer un peu dans le détail, et puis je vais donner la parole évidemment à tout le monde, tous les gens qui sont autour de cette table, pour bien comprendre, avec la nouvelle PAC, les subventions distribuées aux agriculteurs continueront d'être principalement déterminées par le nombre de surfaces cultivées. C'est en tout cas ce que l'on a cru comprendre. C'est-à-dire, en gros, que les plus gros continueront à toucher beaucoup d'argent. Ça, vous ne le voulez pas parce que ça finance pas une agriculture finalement durable et raisonnée ?
Absolument.
C'est ça qui vous dérange ?
Oui, absolument. Pour nous, le fait que les aides de la PAC soient majoritairement allouées à l'hectare, donc selon la taille des fermes, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le bon indicateur, ce n'est pas le bon critère. Oui. Ce n'est pas ça qui fait qu'on va bien orienter l'agriculture française grâce aux subventions de la PAC. Donc nous, on préconise non pas la sortie immédiate de ce système des aides à l'hectare, car aujourd'hui l'agriculture française est très habituée à ce système-là et ça ferait de la casse si du jour au lendemain on en sortait. Mais par contre, on souhaitait utiliser la prochaine PAC dont on est en train de finir les négociations pour progressivement s'éloigner de ce système des aides assez aveugles allouées à l'hectare. Et là, le constat
qu'on fait,
c'est
que c'est pas le cas. Donc vous revendiquez en quelque sorte une aide plus importante, une aide accrue aux petites fermes.
Bah, une meilleure redistribution des aides de la PAC, ce qui effectivement, on peut tout à fait en convenir, va consister à en prendre à ceux qui en touchent aujourd'hui le plus, aux plus gros bénéficiaires de la PAC, pour en redistribuer notamment vers les agriculteurs qui aujourd'hui n'en touchent pas du tout.
Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne touchent pas du tout d'aide de la PAC en France.
Beaucoup non, mais il y a quand même à peu près un petit quart, un tiers d'agriculteurs qui sont peu ou pas du tout soutenus par ce système d'aide à l'hectare. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont sur des productions qui, par essence, se font sur des petites surfaces. Par exemple, l'arboriculture. Vous n'avez pas, comme en grande culture, 100 ou 150 hectares, de pommiers. Ça se fait sur des surfaces qui sont autour de 10 hectares maximum. Et donc, Par définition, ceux qui cultivent des productions qui se font entre 0,5 et 10 hectares à peu près, ils vont toucher beaucoup moins, voire pas du tout, d'aide de la PAC, et alors que ceux qui cultivent, 100 hectares, 200 hectares, vont avoir beaucoup plus d'aide de la PAC. Et donc, il faut redistribuer les aides de la PAC, non pas en fonction de l'hectare, mais en fonction des types de production, de la manière dont c'est produit et de la manière dont ça répond ou pas aux attentes sociétales.
Ouais. Henri Brichard de la FNSEA, vous venez d'entendre à l'instant Aurélie Catalot. Vous êtes d'accord avec elle, il faut mieux redistribuer plus équitablement les aides de la PAC ?
Alors, je crois que d'abord, il faut rappeler un point, j'ai envie de dire, réglementaire. C'est que la PAC s'applique en France comme dans l'ensemble des pays européens. Et en tout cas, au niveau européen, il est acté que les aides sont réparties à l'hectare. Donc ça, c'est quelque chose qu'on le veuille ou non, qui est inéluctable et qui doit s'appliquer en France.
Mais ce n'est pas parce que c'est réparti de la sorte au niveau européen que c'est forcément la meilleure des solutions.
Non, mais c'est une obligation réglementaire européenne.
Mais il faut donc peut-être changer la règle.
Ah ben, changer la règle, on peut y réfléchir. Il faut voir aussi de quelle manière et quel impact elle peut avoir en termes de répartition entre les différents pays européens. On sait que les modèles agricoles sont très différents d'un pays à l'autre. Et en particulier dans un certain nombre de PECO, il y a encore pas mal d'exploitations de subsistance, donc beaucoup d'agriculteurs. S'il y avait une nouvelle répartition des aides à la fois à l'intérieur des pays, mais également ça se ferait au niveau européen, ça voudrait dire que le budget que toucherait la France du niveau européen serait amoindri. Ça, c'est la première remarque. Aurélie a cité le cas de l'arboriculture, on pourrait aussi citer la viticulture. Effectivement,
c'est vrai, ouais, vous avez raison, les viticulteurs ne touchent pas d'argent.
Ben, ils en touchent, mais pas de la même manière.
Voilà,
C'est-à-dire qu'ils ont des budgets, en tout cas ils ont des aides dans ce qu'on appelle leur OCM propre, qui est à la fois sur les légumes, les fruits et la viticulture, qui sont plus sur des mesures un peu structurelles. Effectivement, le mécanisme est très différent, et donc c'est des choix que enfin. ils ont leur propre OCM et en tout cas, ils considèrent que ne pas forcément avoir l'argent de la même manière n'est pas forcément défavorable, puisqu'effectivement, ça leur permet, en particulier en lien avec, avec leurs organisations de producteurs, de pouvoir s'adapter au marché.
Ouais, Henri Brichard, c'est vrai que ces aides qui sont conditionnées à l'hectare, au nombre d'hectares, etc., ça veut dire forcément que ce sont ceux qui sont aujourd'hui qui ont le plus d'hectares qui vont forcément en toucher le plus. Donc on se dit derrière ça, il y a cette fameuse agriculture entre guillemets, alors que l'on aime ou que l'on n'aime pas, et je suis pas là moi pour juger, intensive. Est-ce que ça, c'est pas une erreur historique de continuer de mettre des sommes considérables sur une agriculture qui peut être intensive?
Alors, intensif, je pense pas que ce soit le bon mot, parce qu'on peut avoir beaucoup d'hectares, on peut avoir beaucoup d'hectares et avoir une production que je qualifie d'extensive, c'est-à-dire avec une production pas forcément forte à l'hectare, justement. Hein. Donc, le terme n'est pas forcément le bon. Après,
ça a été ça pendant pas mal d'années, quand même, et de décennies. On était sur une agriculture intensive, il fallait nourrir tout le monde, il fallait produire,
oui,
etc.
Non, mais on est effectivement, je pense que là aussi, il faut se rappeler du démarrage de la PAC. Et au démarrage de la PAC, les aides allaient plutôt pas directement aux agriculteurs, mais étaient plutôt en soutien au marché et donc étaient calculées en fonction de la production, en fonction de la production qui était faite. Hein. Donc, mais par rapport à votre question, je voulais juste redire que dans certaines zones, un exploitant peut avoir beaucoup d'hectares sur d'ailleurs des surfaces qu'on qualifie de peu productives parce qu'elles ont un potentiel limité et que donc plus ces gens-là ont de l'hectare, plus et pas lié du tout à la production, plus ils touchent d'aide.
Il y a une question qui revient. Alors vous étiez à cette réunion avec le ministre de l'Agriculture. Vous n'avez pas claqué la porte à la différence d'autres organisations, hein, il y a maintenant quelques temps. Il y a quand même une question qui revient dans la bouche de tous ceux qui dénoncent cette nouvelle PAC. C'est le fait qu'elle ne prend pas ce virage environnemental qui est appelé par beaucoup. Est-ce que ça, c'est pas un peu gênant quand même? C'est-à-dire que le verdissement, on voit bien que c'est l'accouchement est difficile, quoi.
Alors moi, enfin, j'aimerais, bon, on peut, c'est vrai, avoir des oppositions quand on rentre dans les détails. Je veux d'abord rappeler que les agriculteurs ne sont pas du tout opposés à la transition réclamée, j'allais dire, par la société, mais parce que eux font aussi partie de la société.
Bien sûr.
Et ont aussi la plupart les mêmes sensibilités que l'ensemble des citoyens. Donc il faut qu'on essaye de passer cette opposition. Bon, et donc enfin nous, ce qu'on met en avant, c'est qu'effectivement pour pouvoir faire cette transition dans laquelle on avance. Alors certains peuvent dire qu'on n'avance pas assez vite, mais je pense que le monde agricole s'est transformé au moins depuis 20 ans ou 30 ans, autant que l'ensemble des autres secteurs industriels pour aller dans cette direction. Mais il faut en même temps que nous sommes exploitants agricoles, nous avons une entreprise, une exploitation à faire vivre, il faut aussi qu'on puisse vivre de notre métier. Donc là est tout le débat entre cette volonté d'avancer, et on continue, on a déjà avancé, on continue à avancer, on continuera à avancer, mais il faut que ça puisse se faire dans une capacité pour les agriculteurs de vivre de leur métier.
Alors vous avez raison quand vous dites on veut vivre de notre métier, justement, ça on peut l'entendre. On en connaît aussi qui malheureusement sont morts quelque part de leur métier, dans le sens où les produits phytosanitaires utilisés pendant tout un temps à base de glyphosate, etc., ont fait que des maladies se sont développées souvent et que des agriculteurs qui avaient beaucoup travaillé toute leur vie ont eu des dernières années et des fins de vie quand même très difficiles à cause de ça. Et la problématique, c'est évidemment de remplacer tous ces produits-là ou alors de remplacer les cultures pour qu'elles soient moins gourmandes en produits phytosanitaires, par exemple, et qu'on produise quand même assez pour que tout le monde soit nourri. C'est vrai que l'équation situation est quand même très, très complexe. Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération paysanne, quel est votre sentiment, vous, par rapport à cette nouvelle PAC et à ce que l'on vient de dire, là ?
Moi, mon sentiment et le sentiment de la Confédération paysanne, c'est que les arbitrages qui ont été posés par le ministre, j'allais dire proposés majoritairement par la FNSEA, pour nous, ne sont pas au niveau complètement des enjeux que l'agriculture doit relever. C'est-à-dire qu'il y a l'enjeu alimentaire, il y a l'enjeu environnemental et il y a l'enjeu social. C'est-à-dire l'enjeu social, c'est l'enjeu de l'emploi de l'agriculture, c'est l'enjeu du revenu des paysannes et des paysans. Et pour ça, il nous semble que la PAC est le meilleur levier. La PAC, c'est le plus gros financement, c'est le plus gros budget européen, c'est le plus gros financement qui arrive sur l'agriculture française. Et avec ça, pour nous, ça doit être un moyen non pas de faire du revenu, mais de faire du revenu, de donner une direction ou une autre, une orientation politique avec ces aides-là pour générer davantage de revenus à partir de la production des paysannes et des paysans. Et le fait de refuser aujourd'hui de revoir certains équilibres, de rester dans une stabilité de la PAC qui fait que les paysannes et les paysans disparaissent année après année, s'appauvrissent année après année avec des filières qui ont du mal, beaucoup de mal à générer du revenu, c'est un peu incompréhensible. C'est-à-dire que si on était dans quelque chose de qui générait du revenu ou qui générait de la richesse pour les agriculteurs, on pourrait entendre qu'on veuille pas trop y bouger. Mais aujourd'hui, on est dans un constat qui est quand même pas bon. C'est-à-dire qu'on a perdu 2/3 des paysans en 30 ans. On a quasiment un suicide par jour dans le monde agricole. On a un niveau de revenu qui est en berne dans beaucoup de filières. Et on se sert pas, pour nous, de la PAC de manière efficace et intelligente.
Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement, par exemple, à la FNSEA et à la manière dont elle se positionne par rapport à cette nouvelle PAC ?
Ben, ce qu'on reproche, c'est ce qu'on a reproché dans les arbitrages du ministre, mais qu'on entend là dans les propos d'Henri Brichard, c'est-à-dire l'impossibilité de vouloir bouger les équilibres. C'est-à-dire que, comme le disait Aurélie Catalot tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on arrive à prendre un peu à ceux qui ont beaucoup pour notamment donner un petit peu à ceux qui n'ont rien et qui sont pour le coup relativement nombreux. C'est-à-dire que
Pour ça, il faut changer les règles. C'est ce que disait aussi Monsieur Brichard tout à l'heure. Changer les règles sur le fait qu'on donne de l'argent en fonction du nombre d'hectares, par exemple.
Non, c'est là où Henri Brichard joue un peu sur les mots et répond pas tout à fait à la question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de changer les règles. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer fondamentalement, même si pour nous ça pourrait être intéressant, de passer fondamentalement d'une aide aux hectares à une aide aux actifs pour faire ça. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes dans la PAC actuelle qui sont pour l'instant proposés dans la future réforme qui seraient de nature à avoir un effet redistributif et de réorientation. Il y en a trois, c'est le plafonnement et la dégressivité des aides, c'est-à-dire prendre à ceux qui ont beaucoup voire trop pour redistribuer, ça c'est le premier levier. Le second levier, c'est ce qui s'appelle le paiement redistributif, qui est aujourd'hui activé à 10%, qui est pour nous relativement insuffisant. C'est le paiement sur les 52 premiers hectares, donc qui cible les premiers hectares. Donc en ciblant les premiers hectares, on cible forcément mieux les actifs, mieux les emplois. Et le troisième levier, c'est un levier qui existait dans la PAC précédente, qui n'a pas été activé, qui aujourd'hui existe toujours, mais que le ministère ne veut pas activer. C'est ce qui s'appelle l'aide forfaitaire petit agriculteur, qui permettrait d'avoir une aide forfaitaire, donc pas à l'hectare, mais à la ferme, pour tous ceux que nous, on appelle les oubliés de la PAC, pour tous ceux qui aujourd'hui ne touchent rien de la PAC ou touchent moins de 1250 ou moins de 5000 euros à l'année. Il y a des fermes qui touchent de la PAC moins de 1250 euros à l'année. Il y en a 11% de bénéficiaires de la PAC qui touchent moins de 1250 euros d'aide PAC à l'année. Ça nous paraît quand même sacrément peu ambitieux pour les accompagner, pour accompagner les transitions de ces fermes-là, alors que souvent, c'est les fermes qui sont sur des petites surfaces, forcément, qui font vivre la relocalisation, qui sont souvent sur de la vente directe et qui font vivre donc la souveraineté alimentaire sur les territoires et qui sont pas soutenus. Donc pour nous, c'est un signe assez catastrophique.
Dites-moi, Henri Brichard, quelle réponse vous avez envie d'apporter à Nicolas Giraud sur ce qu'il vient de dire ?
Deux éléments, mais là on rentre un peu dans la technique. D'abord, le paiement redistributif existe. Il existe, mais il est également à l'hectare. Donc ça, c'est la première remarque. Après, dans le raisonnement, et Nicolas Giraud parlait tout à l'heure de l'emploi, c'est de savoir de quel emploi on parle. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple du paiement redistributif, on ne tient pas compte sur une exploitation où il y a des salariés, on ne tient pas compte des salariés. Donc c'est une vraie difficulté pour pouvoir justement rémunérer et en tout cas apporter un soutien aux exploitations où il y a des chefs d'exploitation, mais où il y a également des salariés. Et on voit par exemple dans le monde de l'élevage, où de plus en plus, pour de multiples raisons, les producteurs de lait, par exemple, font appel à des salariés pour faire fonctionner leur exploitation.
Mmh. Aurélie Catalot, puisqu'on parle de l'aspect social, je crois que c'est effectivement un point important, et puis on reviendra sur l'aspect du bio dans quelques minutes également, parce qu'il y a des choses à dire par rapport à cette nouvelle PAC. Moi, il y a quelque chose que je trouve, pardon, mais un peu choquant. Quand, par exemple, on va dans l'est de l'Allemagne, mais c'est pas nouveau, et qu'on se retrouve avec des fermes, des élevages de porcs qui sont immenses, dans lesquels les Allemands ne font travailler que des personnes de nationalité roumaine pour 600 ou 700 euros par mois. C'est absolument scandaleux, et ce sont ces mêmes exploitations qui touchent, par exemple, les aides de la PAC. Est-ce que ça, dans la nouvelle PAC, c'est pris en compte ? Est-ce qu'on essaie de changer les choses, ou justement on reste sur cette stabilité, comme on dit ? Enfin, ça paraît gêner personne, mais on pourrait prendre l'exemple en Espagne, dans le sud de la France, parce que là aussi, bon, il y a un autre problème qui vient se poser quand même, il faut le dire. C'est que quand les arboriculteurs ou les producteurs de fraises, tiens, dans le Lot-et-Garonne, par exemple, passent une petite annonce à Pôle emploi pour trouver des gens pour ramasser des fraises, il n'y a pas de Français qui se présentent pour ramasser les fraises. Il faut aller chercher des gens au Maroc, ce qui est absolument invraisemblable. Mais peu importe. En tout cas, ce sont tous ces gens-là qui touchent des aides. Mais toucher des aides pour exploiter des humains, quelque part. Enfin, je fais mon gauchiste, là, un petit peu, mais c'est vrai qu'on pourrait se le dire.
Oui, tout à fait. Nous, on partage ce constat. Et quand vous pointiez du doigt, par exemple, ce qui peut se faire dans de très grands élevages de porcs en Allemagne, dans des productions de fruits dans le sud de l'Espagne, on place les agriculteurs français qui, eux aussi, font du porc ou des fruits, mais en respectant des normes sociales plus élevées, on les place en situation de concurrence déloyale. Et la réforme de la PAC qu'on est en train de finir de négocier au niveau européen permettrait, si ce n'est de complètement mettre un terme à cela, de résoudre une partie du problème en créant ce qu'on appelle dans notre jargon une conditionnalité sociale, ce qui veut dire en imposant une condition pour accéder aux aides de la PAC qui est le respect du droit du travail qui existe dans l'Union européenne. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est parfaitement dans la légalité si on exploite des travailleurs sans papier et qu'on touche des aides de la PAC. Ça ne pose de problème à personne.
C'est invraisemblable. Moi, je trouve ça invraisemblable, personnellement.
En effet.
Mais bon.
Et donc, on a là l'occasion, dans les tout prochains jours d'ici la fin du mois de juin, pour mettre un terme à cette situation et d'imposer cette conditionnalité sociale. Le problème, c'est qu'on a une partie des États membres qui s'y opposent et on a aussi les représentants de la profession agricole majoritaire.
Ça leur coûte pas un rond, enfin, si je puis dire. Non, mais c'est vrai.
Bien sûr. Mais là où c'est potentiellement plus étonnant, c'est que les représentants de la profession agricole majoritaire qui, au niveau européen, sont rassemblés au sein d'une instance qu'on appelle le COPACOGECA, à laquelle adhère la FNSEA pour un représentant français. Cette instance, qui a beaucoup de poids dans les négociations au niveau européen, s'oppose aussi à la création d'une conditionnalité sociale. Donc on est vraiment dans une forme d'ignorance de choses qui, aux yeux de tous les citoyens, paraît complètement invraisemblable. Pourquoi diable peut-on toucher des subventions, et parfois de forts montants, alors qu'on ne respecte pas le béaba du droit social ? Eh bien, cette situation, peut-être, ne va pas se terminer avec la prochaine PAC, parce que les blocages au niveau européen, pour y mettre un terme, sont très très forts.
Henri Brichard, il faut que la FNSEA se lève sur ce sujet et dise non.
Ce que je peux répondre à Aurélie, c'est que la législation du travail doit être respectée. Alors effectivement, ce à quoi nous on est opposé, c'est au fait que dans les versements des aides PAC, on contraigne les agriculteurs à des obligations supplémentaires, enfin en tout cas à des contrôles supplémentaires par rapport à des réglementations qui existent par ailleurs et qui doivent être appliquées. Et donc c'est ça qui ne nous convient pas. En France, les agriculteurs respectent les lois du travail. Donc la question n'est pas autour de ça.
Oui, mais c'est l'Europe de poids et de mesure, hein, quand même.
Oui, mais justement, si en France, on est à l'aise sur le fait que les agriculteurs français globalement respectent le droit du travail, alors favorisons l'harmonisation au niveau européen pour éviter de placer ces producteurs français en situation de concurrence déloyale avec l'importation de porcs allemands, par exemple, qui va coûter beaucoup moins cher parce que derrière, il n'y a pas du tout les mêmes coûts du travail. C'est tout à l'avantage des producteurs français de le faire. Donc ouais. C'est invraisemblable, moi, je trouve, que toutes les parties prenantes françaises ne portent pas ça collectivement au niveau européen.
Je reviens à Nicolas Giraud, de la Confédération Paysanne. Tiens, vous touchez des aides, vous, pour votre merveilleux fromage, le comté et le morbier ?
Oui, oui, on touche des aides sur la ferme du premier pilier et du second pilier, les aides montagne, vu qu'on est en zone montagne.
Oui, vous touchez combien à peu près ? Vous pouvez le dire ou c'est un secret absolu ?
Oui, moi, non, c'est pas un secret. On est deux installés sur la ferme. On touche à peu près annuellement 30 000 euros de la PAC, à peu près moitié-moitié, premier pilier, donc aide à l'hectare, aide laitière et second pilier, aide montagne.
Je connais beaucoup d'agriculteurs qui disent « nous, on veut vivre de notre production ». C'est-à-dire qu'on en a marre d'être en permanence avec le goutte-à-goutte, avec les aides, etc. Nous, on voudrait vivre de notre production. Et on voit depuis des décennies que c'est pas possible. C'est-à-dire que sans aide, il y en a beaucoup qui n'y arriveraient pas. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à ça ?
Mon sentiment, c'est bien sûr qu'une majorité de paysannes et de paysans veulent vivre de leur production. Il y avait un slogan de la Confédération paysanne qui a été repris par d'autres ensuite, c'était « des prix par des primes ». C'est bien tout l'enjeu. Moi, je pars de mon exemple, en producteur de lait à compter, on arrive à être bien payé parce qu'il y a des mécanismes qui existent dans notamment les appellations d'origine protégée laitière. C'est-à-dire qu'on a des systèmes de régulation et de maîtrise des volumes. Chose qui a été totalement abandonnée dans d'autres secteurs. Les quotas laitiers ont été abandonnés il y a quelques années. Les quotas sucriers ont suivi encore plus récemment. Et on se trouve à chaque fois avec une variation des prix sur ces filières-là de plus en plus importante, avec une difficulté d'avoir un revenu de plus en plus importante. Donc, d'où la nécessité d'avoir un accompagnement par des primes pour pallier ce défaut de rémunération. Ça a été un choix politique à un moment donné, à partir de la PAC de 1992, ça a été un choix politique de faire descendre les prix à la production agricole pour faire descendre les prix de l'alimentation et de pallier ça par des aides à l'hectare et des subventions aux paysannes et aux paysans. Et aujourd'hui, on est dans des prix à la production, les prix de vente de nos produits qui sont complètement déconnectés de la réalité de ce qu'on vit sur le terrain. Donc, la loi Egalim en France a tenté de rectifier un peu ça, n'y arrive pas.
Ça n'a pas marché, oui.
À part pour nous des mécanismes suffisamment ambitieux pour le faire, mais en même temps, au niveau européen, on se refuse totalement à réintroduire des outils de régulation ou de maîtrise des volumes qui pourraient être un bon moyen. D'ailleurs, dans l'analyse des PAC précédentes qui devaient nous conduire pour écrire la suivante, a été écrit noir sur blanc que les outils de régulation des volumes dans les AOP laitières ont permis une meilleure rémunération et un meilleur maintien des fermes sur ces territoires-là. Et de ça, aucun acteur politique n'en tire aucune conclusion que ce serait peut-être le moment de réintroduire des outils de régulation, de maîtrise, des outils permettant d'acquérir un prix à la production qui ferait qu'on serait moins dépendant des subventions et que pour le coup, les subventions seraient plus un tiroir-caisse comme c'est vécu actuellement, c'est-à-dire que on vient y chercher son revenu, donc du coup, elles sont totalement obligatoires pour une majorité de paysannes et de paysans.
Oui. Mais si enfin, les agriculteurs deviennent les agriculteurs. Oui, les agriculteurs deviennent des fonctionnaires quelque part. Enfin, je grossis un peu le trait, mais il y a un peu de ça, quoi.
Mais, C'est grossir un peu le trait, mais c'est en fait ce que la politique agricole génère, c'est-à-dire que on ne vit plus de notre travail, on vit de la taille de la ferme, et vu que les aides sont majoritairement mises à l'hectare, le meilleur moyen pour un paysan de sécuriser entre guillemets son revenu pour les années qui viennent, c'est de sécuriser la taille de sa ferme et c'est de s'agrandir. Et en s'agrandissant, on aura beaucoup plus de difficultés à générer les transitions, notamment les transitions environnementales, qui nécessitent du temps, qui nécessitent des savoir-faire, qui nécessitent plus de travail. Et ça, plus on agrandit les fermes, moins on sera en capacité de le faire.
Alors, on va continuer sur ce sujet-là, justement, la transition environnementale. Aurélie, plus 25% d'aide à la conversion au bio dans la nouvelle PAC, c'est pas mal?
Oui, tout à fait.
Ça, c'est un bon point, non ?
Nous n'avons aucun problème à saluer l'augmentation du budget de la conversion à l'agriculture bio. Nous, on était un petit peu plus ambitieux sur les objectifs visés en termes de surface, parce qu'il y a un pacte vert qui a été proposé par la Commission européenne qui mentionne que les États membres devraient atteindre 25% de surface en agriculture biologique à horizon 2030. Et donc, si on trace la courbe, on aurait dû, en toute logique, être à 20% en 2027. Or là, ce budget que vous avez mentionné correspond à un objectif de 18%. Donc nous, on aurait préféré un budget correspondant à l'objectif de 20%, mais sinon, tout à fait, il faut saluer cette augmentation.
Mais alors,
pourquoi
le bio, parce que je vois passer des pétitions, etc., pourquoi le bio est vent debout, alors ?
Ceux qui ne sont pas contents, qui manifestent, ce sont les agriculteurs qui sont déjà en agriculture biologique, donc qui ont franchi le pas il y a plusieurs années déjà. Pourquoi ? Parce qu'ils continuent, bien sûr, à mettre en place les pratiques liées à l'agriculture biologique et que ces pratiques-là sont extrêmement vertueuses pour l'environnement, pour la santé publique, pour l'alimentation, et qu'elles ne sont pas soutenues à la hauteur de cet effort et de ces vertus dans la PAC. En l'occurrence, il est proposé de mettre sur un pied d'égalité, d'offrir un même montant par hectare, puisqu'on parle toujours d'aide par hectare, qu'on soit en agriculture biologique ou qu'on ait une certification environnementale qui est moins disante en termes d'ambition. Elle s'appelle la haute valeur environnementale. Et donc, si on offre le même montant par hectare pour ces deux paiements, ça revient à dire tout ce que les agriculteurs bio font en plus par rapport à ceux qui ont seulement cette certification HVE, on s'en fiche, on ne le considère pas, on ne le rémunère pas. Pour autant, il y avait une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.
Oui.
Il y avait une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui était de dire « Je vais mettre en place des paiements pour services environnementaux dans la prochaine PAC. » Et un paiement pour services environnementaux, c'est un paiement qui est proportionnel à l'ambition de la pratique. Et avec ce que je viens de vous expliquer, on voit que ce n'est absolument pas le cas. On a fait un paiement arbitraire, on a regardé combien il y avait de budget, combien il y avait d'agriculteurs à rémunérer, et on accorde le paiement à tout le monde
par défaut. Si je comprends bien, pour résumer, celui qui va vouloir passer en bio, il aura des aides correctes, on va dire. Et celui qui est déjà en bio, on est en train de le déshabiller un peu.
C'est ça. Mais on déshabille aussi celui qui est en train de passer en bio, qui normalement aurait pu compter sur des aides après sa période de conversion. Et qui là, aujourd'hui, potentiellement,
oui,
va
les aides,
hésiter,
c'est juste sur la période de conversion.
Va hésiter à s'engager tout court dans la conversion à l'agriculture biologique.
Dites-moi, parce que dans les bonnes nouvelles, quand même, il y en a, la France va produire plus de soja pour réduire les importations en provenance d'Amérique du Sud. Et donc ainsi, évidemment, réduire la déforestation, ça, c'est une bonne mesure.
Tout à fait, tout à fait. Il faut développer ce qu'on appelle les protéines végétales, donc comme le soja en France. C'est un des axes forts que le ministre a choisi d'avoir dans la prochaine PAC. Alors, encore une fois, on n'est pas tout à fait d'accord sur la manière dont il le fait. C'est très bien de développer le soja, mais à quoi sert le soja principalement à nourrir des animaux tels que de la volaille ou du porc potentiellement de manière un peu intensive. Il y a d'autres formes de protéines végétales qui sont également à soutenir. Ça va être les protéines qui sont, je vais le dire de manière un peu simple, mais qui poussent avec l'herbe pour nourrir les vaches. Elles vont brouter le trèfle en même temps, par exemple. Donc ça, c'est aussi une forme de légumineuse ou de protéines végétales à soutenir. Et puis aussi, il y a les protéines végétales directement adressées à la consommation humaine. Les lentilles, les pois chiches, etc. Et ça aussi, on a besoin d'en produire beaucoup plus en France qu'aujourd'hui. Et là-dessus, le soutien
est un peu faible. Si je vous comprends bien, puis après je vais donner la parole à notre ami Henri Brichard qui nous attend, qui piaffe d'impatience, j'en suis sûr. Non mais une petite question, vous dites qu'il faut produire plus de lentilles par exemple, etc. Ça veut dire quoi ? Dans la Beauce par exemple, aujourd'hui on a des grandes cultures de blé, est-ce qu'il faut remplacer ces cultures-là par exemple par de la lentille ?
Il ne faut certainement pas remplacer 100% des céréales par uniquement de la lentille. Mais bien sûr, pour la transition agroécologique, mais aussi pour répondre à nos besoins alimentaires, il faut introduire plus de lentilles, par exemple, dans les rotations. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du blé, du maïs, du colza, on peut faire à un moment donné, sur 7 ans, on peut faire une, parfois très exceptionnellement, deux légumineuses. Et donc là, on va avoir non seulement un effet bénéfique pour la réponse à la demande sociétale qui veut consommer un peu plus de protéines végétales, un peu moins de protéines animales. Mais on a aussi un effet très bénéfique sur l'environnement d'un point de vue agronomique parce que la lentille, elle va apporter de l'azote dans le sol et donc on a moins besoin de mettre de l'engrais chimique.
Ouais. Henri Brichard, qui est toujours avec nous pour la FNSEA, vous êtes prêt à produire plus de lentilles, par exemple? C'est pas mauvais les lentilles saucisses, si c'est bien préparé. Hein?
Non, mais effectivement, enfin, je veux dire, les producteurs, dès qu'une production est intéressante économiquement, je m'excuse de revenir sur ce terme, mais voilà pourquoi ils s'en détourneraient. Après, c'est la difficulté, effectivement, c'est que d'une part, toutes les productions n'ont pas le même intérêt économique, et puis après, tout ça doit s'inscrire dans des rotations agronomiques qui soient faisables, hein. Et donc on connaît toutes les difficultés parfois par rapport au type de sol, par rapport justement au fait que certaines cultures ne peuvent revenir que tous les 5 ans ou tous les 6 ans au même endroit. Donc c'est une vraie difficulté. Nous, donc, on est bien évidemment, on regarde tout ça avec intérêt, mais il faut justement que ça puisse s'appliquer sur le terrain et parfois il y a des fausses bonnes idées. Alors je vais revenir sur la PAC précédente dans le cadre du verdissement où on demandait à la fois à des éleveurs qui avaient à la fois une partie de culture et une partie d'herbe, d'une part de conserver la même surface en herbe et d'autre part de diversifier leur culture, ce qui était parfois une contradiction, en tout cas une incapacité à le faire sur l'exploitation, parce que si on diminuait pour pouvoir faire plusieurs cultures et conserver sa surface de culture fourragère, on était amené à mettre d'autres cultures de ventre à la place et donc de limiter son autonomie fourragère. Donc voilà, ces points sont effectivement importants de que ça soit applicable sur le terrain pour être accepté par les agriculteurs.
On termine parce qu'il nous reste 2 minutes, donc on va essayer de faire vite. Henri Brichard, en 2-3 mots, comment vous voyez la suite? Parce qu'on voit qu'à Bruxelles, il n'y a pas d'accord global encore sur cette nouvelle PAC. Comment vous voyez les choses là?
Bien, je peux pas me mettre à la place des co-législateurs, mais effectivement, on voit que c'est compliqué. On espère, nous en tout cas, et on a besoin, nous agriculteurs, d'avoir une prochaine PAC rapidement, parce qu'on sait qu'après, en termes de fonctionnement, l'administration a besoin de mettre un certain nombre de choses en place. Mais il faut que l'aboutissement de cette future PAC aille dans un sens qui amène les agriculteurs, bien évidemment, à continuer à progresser dans la transition écologique, mais aussi permettre aux agriculteurs de vivre.
Ouais. Nicolas Giraud, même question. Comment vous voyez la suite? La Confédération paysanne va continuer à manifester?
La Confédération paysanne va en tout cas rester mobilisée. En tout cas, au niveau français, je suis assez d'accord avec Henri Brichard sur la nécessité d'avoir un accord au niveau européen pour avoir de la visibilité, ça c'est une certitude. Donc on pousse aussi du côté de la Commission européenne avec le regroupement de CVC, des syndicats paysans au niveau européen pour essayer de faire avancer le sujet. On pousse du côté des parlementaires et du ministre pour faire avancer tout ça, mais ça nous empêche pas de continuer à être exigeants et ambitieux au niveau français. Même si on a un cadre européen qui sera ce qu'il sera, qui sera peut-être pas exactement celui qu'on aurait souhaité dans l'idéal, on a des mécanismes qui peuvent permettre de réorienter, de déspécialiser. On parlait de protéines, mais il nous semble aussi qu'il va falloir déspécialiser les régions. Comment est-ce qu'on se donne la possibilité pour remettre de l'élevage là où il y en avait, où il y en avait plus? Comment est-ce qu'on se donne les possibilités pour le désintensifier là où il y en a trop? Donc ça, c'est tout des mécaniques qu'on peut arriver à mettre en place. Donc nous, on va continuer à rester mobilisés, force de proposition auprès du ministre, auprès des différents échelons, pour arriver à ce que cette PAC soit mise en place, mais surtout qu'elle soit ambitieuse et qu'elle soit en capacité de réorienter le modèle agricole paysan français.
Aurélie Catalot, dernier mot, même question d'ailleurs. Comment vous voyez la suite les semaines qui viennent là ?
Là, on sort d'une phase de grande colère et de déception après l'annonce des arbitrages par le ministre qui ne nous conviennent pas du tout. Et on a en gros encore un mois pour essayer de réorienter les choses tant au niveau français qu'européen. Et donc la suite, c'est continuer à négocier avec les décideurs politiques, continuer à faire campagne pour que dans le mois qui nous reste, les décisions qui sont prises sur la prochaine PAC soient beaucoup plus favorables à une agriculture agroécologique, paysanne, vertueuse pour l'environnement, le bien-être animal, etc.
Merci beaucoup Aurélie Catalot, coordinatrice pour une autre PAC, la plateforme, d'avoir été avec nous. Merci à Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération Paysanne, et à Henri Brichard, qui était également en visio avec nous depuis chez lui. Très belle pendule comtoise derrière vous, dans ce que je peux constater. Comme ça, c'est pas mal. Ça me rappelle chez mes grands-parents autrefois. Merci en tout cas à vous trois d'avoir été là. Habiter la France, ou plutôt Paysans autrement, c'est encore une autre émission de Radio Territoria. On aurait pu faire Habiter la France sur ce sujet, d'ailleurs, ça aurait été... excellent également. La PAC de la Discorde, podcast à retrouver sur Radio Territoria. Je vous dis à bientôt, évidemment, avec Paysans Autrement.
Paysans, nous sommes fiers d'être paysans. Nous sommes libres d'être paysans. Nous sommes dignes et debout. Les paysans, les paysans. Nous sommes jeunes.
Paysans Autrement, une émission à réécouter et téléchargez sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.